On est toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et nous sommes avec le docteur François Sucet, qui est psychologue clinicienne à l'Institut pour la santé des minorités sexuelles à Montréal. Bonjour Madame Sucet.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Oui, on est très content de vous avoir sur les ondes de Choc FM. Donc on va parler un petit peu d'un événement qui a lieu à Toronto le 23 juin. Et c'est un événement en fait, donc un rendez-vous en fait pour l'inclusion des personnes transgenres. Donc c'est une conférence qui a lieu à Toronto, donc on va en discuter un petit peu plus avec vous. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous vivez à Montréal et vous vous spécialisez dans la santé des minorités sexuelles, n'est-ce pas?
Oui, entre autres, absolument.
D'accord. Mm-hmm. Donc ça, c'est, j'imagine que la question des transgenres, c'est vraiment quelque chose qui, surtout ces dernières années, doit être un peu au cœur de votre travail.
Oui, surtout parce qu'il y a un manque tellement criant de ressources, particulièrement au Québec. Vous êtes dans une situation un peu différente en Ontario. Mm-hmm. En fait, ce qui est intéressant par rapport à la question transgenre et les services offerts aux personnes transgenres, c'est qu'on vraiment on voit une différence marquée d'une province à l'autre, d'un territoire à l'autre, à travers le Canada. Je suis aussi ancienne présidente de l'Association canadienne des professionnels en santé des personnes transgenres. Et donc, j'ai un peu aussi la perspective pan-canadienne par rapport à la question. Et les ressources sont très inégales d'une province à l'autre. Et chaque province essaye de faire progresser les choses pour vraiment augmenter l'accès et au réseau de la santé et des services sociaux, adapté aux besoins des jeunes au niveau scolaire, etc. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire.
Ok, d'accord, d'accord. Donc là, l'événement, il faut nous expliquer un peu c'est quoi l'événement qui se passe à Toronto. Il y a une conférence et il y a aussi la projection d'un film, n'est-ce pas?
Oui, en fait, il y a deux événements. Hein. Il y a l'événement du jeudi 23 en après-midi. Donc, il y a la projection d'un documentaire qui a été tournée au Québec, qui s'appelle Je suis trans, qui est en fait une série télévisée où des personnes trans en fait parlent de leur vécu, partagent le sujet de leur vécu. Et moi, j'y suis pour amener un complément, si vous voulez, au niveau des recherches, ce que les recherches nous disent, qui appuie certains éléments qui se retrouvent dans la série télévisée, par rapport au niveau de risque et de violence, par exemple, que peuvent vivre les personnes transgenres, la discrimination au niveau du travail, au niveau de l'école, etc. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, malgré le fait que c'est une réalité très publicisée depuis quelques années. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que plus on a publicisé cette réalité, plus la violence, en fait, a augmenté envers cette population.
OK. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, d'après vous, pourquoi c'est important d'avoir des conférences dans ce genre? Pourquoi c'est important, d'après vous, d'en parler? Alors, continuez.
Je pense que c'est important de normaliser la question trans. C'est important aussi de sensibiliser, d'éduquer la population pour vraiment bien comprendre que la question trans, c'est tout sauf une réalité nouvelle. C'est une réalité qui a toujours existé et qui existe encore à travers toute la planète, surtout dans les pays qui n'ont pas souffert de la colonisation. On remarque, en fait, que l'identité de genre se conjugue de façon beaucoup plus complexe que simplement homme-femme. Mm-hmm. Cette idée, c'est un peu un changement de paradigme, mais cette idée qu'il n'y a que deux cases, la case garçon-fille ou homme-femme, c'est une idée relativement récente. Et ce qu'on constate, c'est que dans les pays qui n'ont pas souffert de la colonisation, et j'utilise ces mots-là de façon consciente, ces différences et cette complexité au niveau de l'identité de genre et d'identification des genres n'a pas été effacée comme elle a été effacée dans nos pays colonisés. Mm-hmm. Et particulièrement dans les Amériques, ce qu'on peut constater, c'est qu'avant la venue des Européens, on avait vraiment une grande diversité. Dans un bon nombre de populations autochtones et des Premières Nations, on conjuguait l'identité de genre de façon beaucoup plus complexe, parfois même 5, 6, 7 genres qui pouvaient être identifiés dans certaines communautés. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les personnes autochtones et des Premières Nations se réapproprient cette histoire, une partie en tout cas, et se nomment personnes bispirituelles. Et les personnes bispirituelles, ça reprend vraiment l'idée que les personnes transgenres à travers l'histoire et en particulier ici, même dans les Amériques, étaient perçues comme des personnes ayant un rôle spirituel très important dans les communautés. Alors, il faut voir que c'est vraiment un 180 degrés par rapport à la perception qu'on peut avoir aujourd'hui, où on se rend compte que les personnes bispirituelles étaient en fait les chamans, les guérisseurs, les juges, les sages des communautés, parce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux et l'esprit féminin et l'esprit masculin. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de reconnaître à travers toute la planète que la question de l'identité de genre, quand elle se complexifie toujours avec une dimension spirituelle.
Ok. Ah, c'est vraiment très intéressant, on en apprend beaucoup, donc je suis sûre que ça va donner vraiment envie à nos auditeurs d'aller à cette conférence, parce que vraiment, c'est très très intéressant. Et vous, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'évolution, un peu de la réaction du public par rapport aux problèmes transgenres? Vous voyez une évolution positive là pour les années à venir, pour le futur?
Oui, je pense que oui, je pense que, en fait, il y a des moments où je me dis même que cette évolution-là se fait mieux, à la limite, que encore... La question des autres minorités sexuelles, c'est-à-dire des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles, de certaines façons, hein, parce qu'à partir du moment où les gens comprennent qu'il s'agit d'une relation de l'individu à sa propre identité, je pense qu'il y a une autre émotion qui est évoquée dans le public, qui est une émotion de compassion, une émotion de bon, il s'agit pas de relation amoureuse et sexuelle avec quelqu'un d'autre, il s'agit vraiment de relation avec soi-même. Et donc ça évoque, à partir du moment où on a accès à l'information, fréquemment ça évoque des réactions positives. Mais, ceci dit, il faut quand même reconnaître que, malgré ça, il y a quand même énormément de sentiments très négatifs, voire même violents envers les personnes transgenres, parce que il y a une transgression du genre. Alors, à partir du moment où on peut apporter des modifications physique et ou sociale, parce que des fois, il n'y a pas tellement de changement physique ou pas du tout, mais il y a une identité sociale qui est corrigée. Il y a un malaise profond dans notre société. Et je crois que là, il faut vraiment prendre une perspective sociologique plus large et se dire, mais pourquoi dans une société comme le Canada, où il n'existe aucune différence légale entre les hommes et les femmes, pourquoi est-ce que ça nous dérange tant que ça, que quelqu'un change de case, ou même que quelqu'un s'identifie ailleurs que dans ces deux cases? Qu'est-ce que ça peut bien changer? Et on se rend compte que peut-être qu'il y a un investissement assez important dans le maintien de ces deux cases, et à ce moment-là, on peut rentrer dans des questions plus larges de à qui ça sert et à quoi ça sert d'avoir ces deux cases et de maintenir un fossé si énorme et largement artificiel entre ces deux cases, hommes-femmes. Donc, la question trans, que je trouve vraiment très, très, très important pour nous en tant que société, c'est que la question du cheminement des personnes trans nous amène à vraiment questionner les fondements même de notre société et les fondements même, d'ailleurs, de tout ce qui se rapporterait justement à l'inégalité sociale homme-femme. Alors, ce qui est puni énormément, c'est, par exemple, on sait que les femmes trans et les femmes trans racisées sont les plus souvent victimisées.
Ah oui.
Il y a un recensement, oui, et les recensements, évidemment, parce que la conjoncture de plusieurs États minoritaires discriminés, ben ça se multiplie exponentiellement par rapport au niveau de risque et de violence dirigé vers ces personnes. Donc, aux États-Unis, par exemple, où on fait un recensement des violences envers les personnes LGBTQ, et là, on ne parle pas de ce qui s'est passé il y a deux jours et cette horreur à Orlando, mais quand on fait le recensement de la violence, on se rend compte que 55% des meurtres pour toutes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, etc., que 55% c'était des femmes trans et des femmes trans noires.
Oh, wow,
voilà.
C'est incroyable.
Oui. Alors, je pense que la question de la violence dirigée vers les personnes trans doit vraiment être perçue dans un contexte beaucoup plus large, et on doit faire rentrer là-dedans toutes les questions de la misogynie, du racisme, etc.
Ok. Wow, c'est vraiment passionnant. Donc, vraiment, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez venir entendre parler le docteur Sucet à, donc ce sera le 23 juin et c'est au Collège Boréal. Donc, la conférence commence à 15h et ensuite, il y a la diffusion, la projection d'un film à 16h30. Le documentaire s'appelle « Je suis trans ». Donc, en tout cas, merci beaucoup, docteur Fusset. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Et très, très intéressant ce que vous avez appris.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Au plaisir. Nous, on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.